Alors ce matin, je voudrais vous faire partager un passage qui nous invite à revêtir un bon sens pour notre vie. Alors ce passage n'a pas pour vocation à donner tout ce que nous sommes appelés à revêtir, mais à insister sur quatre aspects essentiels dans notre vie chrétienne. Quatre aspects qui nous invitent à revêtir, pendant le temps où nous vivons sur cette terre, un sens, une marche, une direction, un service. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons dans le premier épître de Pierre, au chapitre 4. Et nous lirons des versets 7 à 11. Premier épître de Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. C'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre dit aux frères de l'Église: « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Alors l'auteur de cette lettre, vous le connaissez, lui-même se nomme, dès l'introduction de cette lettre, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et il précisera au chapitre 5, témoin des souffrances de Christ. Il s'agit de Simon, fils de Jonas, originaire de Bethsaïda en Galilée, un des disciples que Jésus appela à suivre, l'apôtre Pierre. Et cette lettre est adressée, comme le dit Pierre, à ceux que Dieu a choisis. Il adresse cette lettre aux frères de l'Église, et notamment à ceux qui vivent en étranger dans des provinces d'Asie mineure, dans la Turquie actuelle. Et l'objet de cette lettre, comme le dira Pierre, c'est d'encourager les croyants. C'est une lettre d'encouragement. Comme souvent dans les épîtres, ce sont des lettres d'encouragement, d'exhortation, afin de s'assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu qu'ils sont attachés. Et le but de cette lettre est donc d'encourager les chrétiens de l'Église à tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ. C'est un combat permanent, tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ. Et souvent pour l'époque, c'était aussi de les encourager à supporter les souffrances à venir et la persécution. Donc Pierre va donner des enseignements forts sur à la fois le sens de la souffrance, mais aussi des enseignements très pratiques sur la manière de se conduire dans le monde, hein, et aussi à marcher d'une manière digne de Dieu. Et Pierre, tout comme l'apôtre Paul, base toujours son enseignement sur l'exemple de Christ. Christ qui est la pierre angulaire, Christ qui est notre chemin, Christ qui a tout accompli pour nous. Et cette lettre, bien évidemment, garde toute sa valeur aujourd'hui. Elle nous parle fortement, puisque cette lettre touche à des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes, nous aussi, placés dans le monde. Nous aussi, nous devons faire face à l'hostilité. Nous aussi, nous devons tenir ferme dans la foi. Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à témoigner en parole et en acte. Cette lettre nous parle aussi, en premier lieu aujourd'hui, à nous, chrétiens, du 21e siècle. Alors le passage que je viens de vous lire se situe après un enseignement puissant de Pierre. un enseignement puissant sur la personne même de Christ. Et il dira à la fin du chapitre 3 jusqu'au début du chapitre 4, avant notre passage, que Christ a souffert la mort à la croix. Il a souffert la mort à la croix pour nous sauver du péché et pour nous amener à Dieu. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve et il siège désormais à la droite de Dieu et toute autorité et toute puissance lui ont été soumises. Et à cause de ce que Dieu a accompli pour nous, Pierre exhorte les chrétiens de l'Église à ne plus vivre comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Et de vivre selon la volonté de Dieu, comme il le dit, pendant le temps qui leur reste à vivre dans la chair. Pendant le temps qui leur reste à vivre sur la terre, à vivre selon la volonté de Dieu. Et il y aura un temps. Il y aura un temps qui vient déjà, un temps rapide, où nous devrons rendre compte un jour de ce que nous avons fait. Pierre va exhorter les chrétiens de l'Église à saisir ce sens de Dieu pour leur vie maintenant et à le traduire de manière concrète maintenant. Ce n'est pas rien ce que Christ a accompli pour nous. Alors si vous le voulez, ce matin, nous allons regarder quatre aspects, les quatre aspects que Pierre invite les frères à considérer. Ces quatre aspects sont le fait de se préserver du monde. Non pas à ne pas vivre dans le monde, mais à se préserver. Le deuxième aspect, c'est l'exercice de l'amour et de l'amour mutuel. Le troisième aspect, c'est pratiquer l'hospitalité, c'est-à-dire savoir recevoir. Et le quatrième aspect, se mettre au service les uns des autres. Mais avant de regarder ces quatre aspects, je voudrais vous inviter à considérer avec quelle perspective Pierre ancre son enseignement. Pierre dit au verset 7, avant son enseignement, « Considérez que la fin de toute chose est proche. » La fin de toute chose est proche. Et il semble ici que Pierre se projette sur la fin de ce que nous vivons depuis la venue de Jésus. Et il qualifie cette fin de proche. Et il est bon de s'arrêter un moment pour considérer ce temps que Pierre décrit comme proche et qui va impliquer l'enseignement qui suit. Vous le savez, si vous lisez la parole de Dieu, souvent nous voyons des termes de dernier, de fin. Et sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet ce matin, nous sommes quand même un petit peu obligés de considérer de quelle fin parle Pierre ici. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des expressions comme les temps sont accomplis, les derniers temps, les derniers jours, ou encore le temps de la fin, ou même le jour du Seigneur, le dernier jour, ou l'avènement du jour de Dieu. Tous ces termes sont présents dans l'Évangile. Et il faut arriver à situer le moment ici qu'annonce Pierre. Alors, encore une fois, sans rentrer dans le détail, simplement pour situer, on distingue tout d'abord le temps prémessianique, hein, c'est le temps qui allait jusqu'à la venue de Jésus, ce temps dont il est dit qu'il a été accompli au moment où Jésus est venu. Ce temps est accompli en réponse à l'attente du Messie. En Marc 1, au verset 14 et 15, Jésus dira « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ce temps a été accompli à la venue de Jésus. Mais ce temps de la venue de Jésus inaugure un nouveau temps qui vient. Et ce nouveau temps qui part de la venue de Jésus jusqu'à sa seconde venue est ce qu'on appelle les derniers temps, ou encore les derniers jours, ou encore les temps de la fin. Cette expression est souvent utilisée dans les évangiles et dans les épîtres. D'ailleurs, en Hébreux 1, au verset 2, il nous est dit « Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Il nous est dit aussi en 1 Timothée 4, verset 1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et là, ce temps est donné au futur. En 1 Pierre 1, au verset 5, dans la lettre qui nous concerne ce matin, Pierre dit « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Alors ces derniers temps, si nous y sommes, il est à la fois employé au présent, au passé, au présent et au futur. Il est à la fois déjà là, pour ce qui a été accompli par la venue de Jésus. Il est aussi à venir dans ce qui reste à accomplir jusqu'à la venue de Jésus. Et il n'est pas anormal d'entendre parler des derniers jours ou des derniers temps au passé, au présent ou au futur, selon ce qui est accompli ou ce qui doit rester à accomplir. Ces derniers temps, sachez-le, nous y sommes. Et il vient à la fin de ces derniers temps un dernier moment, un dernier jour, un temps ou un moment qui va venir sceller ou accomplir ces derniers temps. C'est le jour du Seigneur. Alors je synthétise un peu, je raccourcis, il y a plein d'autres événements qui viennent entre-temps, bien évidemment, mais ce matin, ce n'est pas l'objet. En tout cas, il y aura une fin. Et ce jour, c'est précisément le moment consacré au retour du Seigneur et qui indique que, et qui marque la fin du temps comme nous le vivons, comme nous le connaissons aujourd'hui. Cette fin est marquée par le retour du Seigneur, comme d'ailleurs l'apôtre Pierre va le développer dans sa deuxième lettre. S'il dit ici « la fin de toute chose est proche » et qu'il ne le développe pas, il aura l'occasion de le développer dans sa deuxième lettre pour parler de ce jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Si nous revenons rapidement sur ce dernier moment, l'apôtre Paul dira dans sa lettre à l'église de Thessalonique « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Ce que dit Paul à l'église, comme le dira d'ailleurs Pierre dans sa deuxième lettre, c'est que ce jour viendra soudainement. Et c'est une réalité, et cette réalité ne dépend pas de l'homme, ni de leur volonté, mais elle dépend de Dieu seul. C'est un jour où la puissance de Dieu, par son Fils Jésus, se révélera aux hommes comme jamais auparavant. Et ce qui est frappant dans ces passages, si vous lisez les Épîtres, c'est pas tant le moment, mais c'est la manière soudaine de la seconde venue de Jésus. Ce moment dont personne ne sait le jour et l'heure viendra soudainement. Et il y aura donc ceux qui seront surpris, comme le dit Paul, et ceux qui seront préparés. Et c'est là-dessus que l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans ses épîtres, insistera auprès des chrétiens. Il ne donnera pas plus de précisions sur ce jour, sur la manière dont il doit arriver, mais il apportera des précisions sur la manière de se comporter pendant le temps qui nous reste à vivre sur la terre. Et donc, le plus important, ce n'est pas de connaître le moment, mais c'est d'être préparé. D'être préparé. Et l'apôtre Paul, tout comme l'apôtre Pierre, s'attacheront à nous inviter à considérer ce que nous sommes appelés à faire pendant que nous sommes sur la terre. Et je crois que Pierre veut que les frères soient préparés. Si l'apôtre Pierre ne parle pas expressément du jour du Seigneur, il nous parle de la fin qui doit arriver. Et il nous invite à considérer aujourd'hui dans quelle perspective nous nous trouvons. À cause de ce qui doit arriver, qui est une réalité, il dit « comportez-vous ». Utilisez ce temps selon la grâce que vous avez reçue de Dieu. Pour exprimer ce temps qui doit arriver, l'apôtre Pierre dira dans sa deuxième lettre, puisque tout doit disparaître, comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. La fin de toute chose est proche. Comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Il y a donc un temps, et ce temps est court. Et il est important de le considérer parce que c'est la manière dont Dieu veut que nous agissions dans nos vies. Mais ce temps est aussi important parce que c'est un temps propice. C'est un temps propice afin que nous puissions nous conduire d'une manière digne devant Dieu, mais aussi c'est un temps propice pour l'humanité. Afin que l'humanité connaisse Dieu et arrive à la repentance. Pierre dira, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, envers vous ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. ce temps est court. Ce temps est marqué par une fin et il est important parce que ce temps est propice. Il est précieux. Il est même merveilleux. Parce que c'est le temps où nous avons la possibilité d'agir dans nos vies selon la volonté de Dieu. Alors ce matin, mes frères et sœurs, ce passage n'est pas un passage de crainte. Ce n'est pas non plus un passage de culpabilité. Mais c'est un passage d'espérance et même de joie si on considère la fin qui doit venir. Nous ne devons jamais regarder ces passages avec de la crainte, avec de la culpabilité, avec de la peur ou même avec une soumission malsaine. Nous devons au contraire nous projeter vers cette fin avec une entière persévérance et même avec une entière joie. D'ailleurs, l'apôtre Pierre n'hésitera pas quelques versets après notre passage, au verset 13, à dire, lorsqu'il les encourage dans les épreuves, dans la persécution à venir, il leur dit, au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ et vous serez remplis de joie quand il apparaîtra dans sa gloire. La perspective qui vient devant nous n'est pas une perspective de peur et de crainte, c'est une perspective de joie. Parce que nous verrons Christ dans sa gloire et nous prendrons part à la même gloire. Alors en considérant cette fin qui est proche et si nous le gardons à l'esprit, Pierre va encourager les frères de l'Église à aller dans le bon sens pour leur vie. Et s'il leur dit la fin est proche, ce n'est pas pour leur faire peur, pour qu'ils partent en courant. Mais c'est au contraire pour mettre d'autant plus de valeur à ce qu'il va leur inviter de considérer. Et il va aborder quatre attitudes à revêtir. Quatre attitudes qui doivent les pousser à saisir le sens de Dieu dans leur vie. Ces quatre aspects sont quatre aspects variés et tous essentiels dans notre vie chrétienne. Et si on les regarde, nous devons les considérer tous. Tout d'abord, Pierre demande à chacun d'être sage ou modéré, sage et sobre, selon les traductions, afin de vaquer à la prière. Et il emploie ici les termes de sage et de modéré, deux termes qui traduisent un appel à être soi-même, un sens à être pour soi-même. Et le mot grec, pour traduire le mot sage et modéré, c'est un seul et même mot, c'est sophronéo pour ceux qui connaissent, qui veut dire être modéré, modeste, sobre, et qu'on traduit, alors ça c'est intéressant, qu'on traduit par « être dans le bon sens ». Quelqu'un qui est sage et modéré, c'est quelqu'un, selon la parole, qui est dans le bon sens. Et même par extension, par image, on traduit par quelqu'un qui est saint d'esprit. C'est assez intéressant. Être sage et modéré, et ne pas se laisser distraire par le monde, c'est quelqu'un qui se consacre à être dans le bon sens pour Dieu. En d'autres termes, être sage et sobre, c'est avoir une vie équilibrée dans le sens de Dieu en se préservant du monde. Et d'ailleurs, ces paroles ne sont pas anodines parce que Pierre lui-même, dans le chapitre 1, dira « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. » Au contraire, il développe en disant « Au contraire » au verset 15, à chapitre 1, verset 15, « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans votre comportement. Voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saint, car je suis saint. » Quand Pierre appelle à la sobriété, à rester en éveil, à ne pas se laisser distraire, c'est en vue de quelque chose de bon, c'est en vue de se préserver du souillure du monde et donc d'être saint. Et donc il y a un sens de Dieu à considérer là dans ses paroles, c'est aller dans le bon sens. Celui qui nous préserve des dangers de ce monde. Et ce sens, bien évidemment, est important. Il est important parce que Pierre y ajoute quelque chose de primordial. Afin de vaquer à la prière. Ou encore, afin de pouvoir prier. Ou comme il est dit dans certaines traductions, pour être disponible à la prière. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait la prière avec cette nécessité d'être sobre et d'être modeste, et même de ne pas se laisser distraire. Bien, vous savez que la prière, c'est un moyen privilégié que nous donne Dieu pour le louer, pour le remercier, pour lui rendre gloire, mais aussi pour le connaître, lui personnellement, et pour discerner sa volonté pour nos vies. Et il est bien évident que si nous ne sommes pas disposés, si nous nous laissons distraire, si nous ne restons pas proches de lui, il est difficile de pouvoir le louer. Il est difficile de pouvoir le remercier. Il est difficile de pouvoir lui rendre gloire parce que il ne prend pas part à notre vie. Il est même difficile de discerner, de connaître sa volonté parce que nous nous laissons distraire par ce qui est autour de nous. Être sobre, être modeste, ne pas se laisser distraire, c'est vital pour notre vie personnelle. Et c'est déjà là un premier sens que l'apôtre Pierre nous invite à considérer. Qu'est-ce qui est important dans notre vie ? Qu'est-ce qui est important dans notre vie ? La deuxième chose que Pierre invite à considérer, et il le dit en disant « avant toute chose, ayez un ardent amour les uns pour les autres. » Ayez un ardent amour les uns pour les autres. Aimez-vous, mais aimez-vous de manière élargie, étendue. Le mot ardent en grec, c'est un mot qui marque une extension. C'est aimer d'une manière étendue. C'est un sens d'amour actif qui ne nous arrête pas à un amour simple qu'on se satisferait. Mais c'est un amour étendu. C'est un amour qu'on recherche toujours plus. L'amour de Dieu nous invite à augmenter en amour, toujours plus. C'est un amour aussi qui est traduit par un amour déterminé, un amour assidu, un amour qui nous comble et dont on veut faire les délices de notre vie. Cet amour, c'est un amour à rechercher parce qu'il est la nature même de Dieu. Et donc, il nous invite à aimer comme Dieu nous aime, rien que ça. Un ardent amour, c'est un amour qui nous porte nécessairement vers les autres. Et cet amour, nous dit Pierre, mais cet amour, il est important à considérer parce qu'il a un sens actif. Ce n'est pas simplement envelopper nos frères et sœurs d'amour, bien sûr, c'est évident. Mais il a aussi un sens actif puissant à considérer. Parce que l'amour de Dieu, c'est une puissance agissante. L'amour de Dieu n'est pas l'amour du monde. L'amour du monde n'est pas à bannir. Aimer quelqu'un dans le monde, c'est quelque chose d'important. Mais l'amour de Dieu, c'est bien plus que ça. C'est une puissance. Et il nous est dit que c'est une puissance qui couvre le péché. Dans nos rapports les uns avec les autres, l'amour que nous avons est une puissance. Dans le psaume 32, au verset 1, il est dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert ». Alors le mot couvert, il est quand même important à considérer ce matin. Dans l'Ancien Testament, donc dans l'hébreu, ça signifie le mot couvert caché, enveloppé, recouvrir. D'ailleurs, vous le retrouvez souvent, ce même mot, dans l'Ancien Testament. Il veut dire donc caché, enveloppé, recouvrir, revêtir, et il a le sens de pardonner. Le péché couvert, c'est le péché pardonné, chaque fois qu'il est employé dans ce terme-là. Et cet amour, nous dit Pierre ici, c'est finalement un amour, d'ailleurs il est donné dans certaines de vos traductions, un amour qui pardonne, un amour qui sait pardonner, qui a le pouvoir de pardonner plutôt que d'exagérer. Alors je ne suis pas en train de vous dire ce matin que c'est notre propre amour qui pardonne les péchés du monde, bien évidemment. C'est Dieu qui pardonne nos péchés. Mais notre amour envers les frères, c'est ce qui favorisera à notre tour, la possibilité de pardonner une offense à un frère et une sœur. Si nous n'aimons pas, il est impossible à notre tour de pardonner. Il est impossible à notre tour de supporter même la souffrance. Il est impossible à notre tour de pouvoir envisager le pardon comme une possibilité pour nos frères. Dans les Proverbes, au chapitre 10, verset 12, il est dit « La haine excite les querelles ». Vous avez ce verset dans toutes vos Bibles pour ce passage. La haine excite les querelles. C'est l'œuvre de la haine. Mais l'amour, elle, couvre les fautes. Ça, c'est l'œuvre de l'amour. Si la haine a pour effet les querelles, et donc les divisions, et donc nous porte au péché, il n'en est pas de même des effets de l'amour dans nos vies. L'amour n'attise pas les querelles. L'amour n'attise pas la division, mais elle favorise le pardon. L'amour nous rend capables de nous supporter. L'amour nous rend capables de nous pardonner. L'amour nous rend capables de nous porter. L'amour favorise donc l'unité. Et c'est primordial pour l'Église. Si la haine favorise la désunion, l'amour a pour vocation de nous unir. Combien il est important de rechercher cet amour et cet ardent amour envers les frères et sœurs. Parce que c'est de cet amour que nous pourrons nous unir. L'amour est une puissance agissante. Et nous sommes appelés à revêtir ce manteau d'amour tellement important pour notre vie chrétienne. Alors l'apôtre Pierre ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là et il demande aux frères de l'Église d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que vient faire ici l'hospitalité dans cet enseignement ? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici l'apôtre Pierre ne donne pas tous les aspects que doivent revêtir notre vie chrétienne, il y en a bien d'autres. Mais il donne quatre aspects qui lui semblent importants à ce moment-là où il écrit aux frères de l'Église, et donc des frères qui vivaient en étranger, dispersés dans les provinces d'Asie, et qui peut-être aussi avaient des soucis et devaient rester confinés chez eux et n'avaient peut-être pas la possibilité d'inviter des gens, et donc, ou peut-être qu'ils regardaient l'autre comme quelqu'un de malveillant. Et donc, cet aspect de l'hospitalité est très important afin de leur faire considérer quelque chose. C'est le fait d'exercer l'amour au travers de l'hospitalité. Et il est important d'être hospitalier. Hospitalier, ça veut dire savoir recevoir. Ou être généreux pour ses invités. Lorsqu'on exerce l'hospitalité, ce n'est pas simplement accueillir des gens, mais en fait, on donne. Et souvent, dans l'hospitalité, on donne beaucoup plus que si on faisait pour soi-même. Parce que dans l'hospitalité, c'est l'exercice véritable de l'amour envers les autres. On veut combler nos invités. On veut qu'ils soient bien. Et on les comble au travers de notre générosité. Et on donne bien plus qu'on se donnerait pour soi-même. Et là, il y a une traduction visible dans l'hospitalité de l'amour de Dieu. C'est un amour qui dépasse ce qu'on donnerait par nous-mêmes. L'hospitalité, c'est quelque chose qui traduit réellement la mise en pratique de l'amour de Dieu dans nos vies. Exercer l'hospitalité, dit Pierre, sans murmure et contrainte. L'hospitalité, c'est témoigner que celui que j'invite, je le considère, il m'importe. Cet amour qui est animé par quelque chose qui nous inspire, qui vient de Dieu et qui nous porte vers les autres gratuitement, sans arrière-pensée. C'est vraiment le sens de l'amour de Dieu qui est exercé dans l'hospitalité. Ce n'est pas simplement un geste pratique. C'est quelque chose qui a beaucoup de portée. Et si vous exercez l'hospitalité, sachez que c'est quelque chose d'important que vous exercez. Ce n'est pas rien devant Dieu. Exercer l'hospitalité. Savoir recevoir les personnes. Alors tout naturellement, ces exhortations que nous donne Pierre ici sont importantes à considérer aussi dans un sens. Il est important de considérer que nous avons besoin de nous préserver du mal, de nous préserver des souillures du monde et de ne pas nous laisser distraire. Après cela, après quoi, il est important de considérer aussi que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres d'un ardent amour et que nous devons le mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Et il est tout naturellement important que Pierre, après cela, invite les frères à considérer le service. Si nous nous préservons du mal, si nous nous portons à aimer nos frères, c'est évident que nous sommes appelés à servir et à nous mettre au service les uns des autres. Et Pierre dira, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre fait considérer ici que chacun et chacune ont reçu un don selon la volonté de Dieu. Il est dit dans certaines traductions, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Est-ce que vous en êtes conscient ce matin ? Est-ce que vous êtes conscient qu'en tant que chrétien, chacun d'entre vous a reçu un don particulier selon la volonté de Dieu? Ce n'est pas vous qui le décidez, ce n'est pas moi, c'est la volonté de Dieu. Il a voulu. Alors ce matin, regardez combien nous sommes dans l'Église. Tournez vos têtes à droite, à gauche, et considérez que Dieu a donné à chacun de nos frères et sœurs qui sont assis là un don particulier pour sa gloire. C'est pas rien. Et est-ce que vous considérez une seule seconde, par le nombre qu'on est là, la variété de dons que Dieu nous a donnés? C'est une floraison de dons. Il y a une multitude de dons dans l'Église. Et Dieu nous appelle à le considérer, ça. L'œuvre du diable, c'est de nous empêcher de penser qu'on sert à quelque chose. C'est de nous empêcher de penser que Dieu nous a donné un don. Surtout pas. C'est le pire qui pourrait arriver pour lui. Ou une des choses les pires. Ne pas faire considérer que vous avez un don. Non, reste à ta place dans l'Église, c'est bien. C'est bien, surtout, va pas chercher plus. Pourtant, la parole nous dit que nous avons reçu un don particulier de Dieu, un don particulier qui nous est propre. Et l'apôtre Pierre nous invite à le considérer d'une certaine manière. Il dit, vous avez reçu un don particulier. Eh bien, utilisez-le comme de bons intendants. Donc, dans la traduction originale, c'est de bons intendants. C'est-à-dire que comme de bons gestionnaires, comme de bons économes. En d'autres termes, nous sommes appelés à être de bons gestionnaires des dons que Dieu nous a donnés. Et quand nous sommes de bons gestionnaires, c'est que nous sommes un gérant, un exploitant, à quelque part, si je prends des termes communs d'aujourd'hui, de manière plus technique. Nous n'en sommes pas propriétaires, d'ailleurs. Mais nous en sommes de bons gestionnaires. Et Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires des dons qu'il nous a donnés. Alors si l'on le regarde avec cet objectif-là, il est important de bien considérer les dons que nous avons reçus. Dieu nous a donné à chacun un don particulier, ça nous le savons, et il nous invite à en être de bons gestionnaires. Je crois que il y a quelque chose de merveilleux là, c'est que Dieu nous dispense, nous donne des dons pour que nous les mettions au service des autres. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que Dieu veut que nous prenions une part de lui à quelque part, dans les dons, s'il nous donne quelque chose de sa puissance, pour que nous puissions la mettre au service des autres? Et je crois que nous devons discerner nos dons. Nous devons nous y attacher et nous devons les faire fructifier. Et l'objectif de ces dons, bien évidemment, ce n'est pas pour quelque chose de vain. Ce n'est pas pour quelque chose qui ne sert à rien. Mais c'est pour le bien des autres et pour l'Église. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul dira, en parlant des dons, « Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, et ensuite ceux qui ont des dons, aussi dons des miracles, dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler en langue, etc. Dieu a établi dans l'Église, il a destiné dans l'Église, il a formé dans l'Église, il a placé dans l'Église des dons. Ces dons sont établis dans l'Église, c'est-à-dire pour chaque membre que forme le corps qu'est l'Église. Et ce corps, par Christ, par la puissance de Christ, ce corps, il doit être bien coordonné. Il doit former un assemblage solide et il doit tirer son accroissement selon la force qui convient à chacun. Et ce corps, il doit s'édifier lui-même dans l'amour. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens. Vous voyez que ces dons doivent être mis en œuvre pour que ce corps puisse s'accroître et s'édifier dans l'amour. Ce n'est pas rien. Alors vous pensez bien que l'œuvre du diable, c'est d'empêcher par tous les moyens que nous puissions servir. C'est d'empêcher par tous les moyens que nous ayons à considérer nos dons. Parce que ces dons ont une valeur inestimable pour l'Église. Pierre dit donc ensuite que si quelqu'un parle, donc il prend un exemple ici, hein, il tire un exemple des divers dons, hein, il donne pas un don particulier plus important que les autres, c'est pas du tout ça, mais il va prendre un don pour essayer de nous faire considérer le sens qu'on doit lui donner. Et il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, comme parlant de la part de Dieu. Celui qui parle ne parle pas finalement pour lui-même. Il ne parle pas pour sa propre gloire, mais il parle parce qu'il est consacré à Dieu, consacré pour Dieu, et qu'ainsi Dieu soit révélé dans la vie des autres. Le don, ici, il est important de le comprendre dans le sens qu'il est mis au service des autres pour la gloire de Dieu. Et nous devons viser toujours la gloire de Dieu comme notre but principal dans tout exercice de don, et non notre propre gloire. Il est important de considérer ça parce que parfois, nous aimons tirer plus de valeur à ce qui nous est dit des autres qu'au but même du don. Un don, il n'est pas fait pour soi-même, il n'est pas fait pour tirer une vaine gloire, sinon il ne sert à rien, il n'a aucune utilité. Il est fait pour que Dieu soit glorifié. Si quelqu'un remplit un ministère, nous dit Pierre, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Et là encore, il est important de considérer la manière dont on sert. Pierre encourage tout ministère à être rempli, tout don à être exercé, tout service à être mis et accompli. Et il invite que tous soient accomplis avec la force que Dieu communique. Et on peut le comprendre assez facilement. Avec tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est Dieu, selon sa volonté, qui nous donne des dons, afin qu'on les mette au service des autres. Il est impossible de se couper de cette réalité-là et de dire, ben maintenant que j'ai un don, je l'exerce selon ma propre volonté, avec mes propres forces, selon ma propre direction. C'est impossible, parce qu'on met de côté Dieu, et Dieu dans tout ça. Il n'est pas de ministère, il n'est pas de service dans l'Église qui ne doit être accomplie sans l'aide, sans l'assistance, sans la puissance que Dieu donne par son Esprit. Quel que soit le service même, je dirais. Parce qu'à un moment donné, c'est la désillusion, pardon. À un moment donné, c'est la souffrance personnelle. Je crois que nous devons remettre toute chose à Dieu. Et en toute occasion, quel que soit le service, lui demander son assistance. Et vous le savez bien, combien de fois dans vos services, dans l'Église, vous avez eu besoin de l'assistance du Seigneur. Combien de fois vous avez peut-être dû prier pour dire « Seigneur, vraiment aide-moi parce que là je m'en sens pas capable. Assiste-moi, donne-moi ta force parce que là je n'y arrive pas. C'est trop pour moi. Ou je ne sais pas quel sens prendre, quelle direction prendre. » Eh bien, vous avez besoin de cela. Et le Seigneur vous invite à lui remettre votre besoin. Le Seigneur veut que vous comptiez sur lui. Il veut que vous comptiez sur son soutien, sur son aide, sur son assistance. Et c'est justement là, à ce moment-là, que le Seigneur nous donnera des forces, et même des forces insoupçonnées pour l'accomplissement d'un service. Ou peut-être qu'il nous apportera même un éclairage qu'on n'avait pas vu dans un service, parce qu'on aura perdu la direction. Je dirais qu'exercer un ministère et même un service selon la volonté de Dieu ne peut se faire que si on l'exerce par la force et avec l'assistance de Dieu. Enfin, Pierre termine cette première partie d'enseignement par ce qu'on appelle une doxologie. Il termine par le fait de rendre gloire à Dieu en disant « Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ » à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tout cela, quoi que nous fassions, servir Dieu selon la force qui nous communique, c'est pour qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Parce que nous n'avons rien de nous-mêmes, mais nous avons tout reçu de Dieu. Nous avons tout reçu de Dieu. Et c'est du reste ce qui doit animer notre service. Et même, je crois, c'est ce qui doit nous faire considérer que ce service ne doit pas être vu comme un poids, comme une charge, comme un fardeau, parce que cela nous vient de Dieu. Il nous invite à rentrer dans ce service pour lui. Et c'est vers lui que nous devons tendre. Alors nous pouvons nous poser la question à chaque fois que nous servons. Est-ce que j'accomplis mon service avec ce but de servir la gloire de Dieu ? Est-ce que la manière dont je le fais pour que en tout Dieu soit glorifié par son Fils Jésus ? Et si on le regarde avec cette perspective-là, on peut prendre vraiment une joie et un plaisir particulier à servir le Seigneur. Et ne pas le considérer comme une charge, un fardeau, quelque chose d'inutile ou sans une vue vraiment importante. Mais si on considère qu'on sert, on sert Dieu là où on est, mais là c'est toute la valeur. On n'a pas besoin de nous le dire. Toute la valeur du service, il est là. Il est qu'on le fait pour le Seigneur. Et sachez que tout service que vous faites, Dieu le sait. Et il ne l'oublie pas. Si nous, nous l'oublions, si des fois on n'y fait pas attention, ou si parfois certains peuvent se sentir délaissés parce que manque d'attention, le Seigneur voit tout ce que vous faites pour sa gloire. Et il saura compter. Et il saura vous rendre tout ce que vous avez donné pour lui. L'apôtre Paul disait aux frères de l'église de Corinthe, pour les encourager, il disait « Mes frères, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et je crois que c'est le sens qui doit nous animer dans nos vies. Faire tout pour la gloire de Dieu. En faisant tout pour la gloire de Dieu, on cesse de regarder à nous-mêmes. On cesse de regarder à nos propres considérations. On regarde le Seigneur, le rocher de notre salut, celui qui peut tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, ce matin, je vais terminer là, parce que je vois que l'heure tourne. Ce matin, je voulais qu'on soit ensemble interpellés. Vous savez, quand on prépare une prédication, on est d'abord soi-même vivement interpellé dans sa propre vie. Et souvent, une prédication, elle est basée sur une lecture personnelle, où nous-mêmes, on est d'abord en premier lieu interpellés. Et moi-même, je me suis senti premièrement vivement interpellé par ces paroles de Pierre. Et la parole m'invite à regarder un bon sens pour ma vie. Et juste pour terminer, si vous considérez ces quatre aspects qui viennent nous être donnés par Pierre, ces quatre aspects merveilleux. Être sobre et sage, ne pas se laisser distraire, c'est en vue de nous préserver du monde. C'est pour que nous soyons plus proche de Dieu, c'est quelque chose de bon et de juste. Avoir un ardent amour pour les frères, c'est exercer l'amour de Dieu envers les autres, c'est pouvoir le vivre concrètement, et c'est pouvoir le voir agissant dans nos vies, c'est quelque chose de bon. Si on considère l'hospitalité, le fait de mettre en pratique l'amour de Dieu envers les autres, c'est aussi concrétiser l'amour de Dieu de manière pratique. Et là aussi, c'est quelque chose de bon, et c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Et le quatrième point, servir, mettre au service des autres le don que Dieu nous a donné, c'est aussi quelque chose de bon, vous pensez bien. Dieu nous a donné un don pour que nous mettions au service des autres. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux ? Sur ces quatre aspects, j'étais à côté de la plaque. Je me suis souvent laissé distraire. J'ai souvent pas considéré l'amour de Dieu comme j'aurais dû. J'ai très peu souvent exercé l'hospitalité. J'ai souvent considéré le service comme un fardeau, comme une charge. Et pendant des années, j'ai même repoussé. Et bien pourtant, la parole de Dieu m'invite à considérer que c'est quelque chose de beau tout ça. Voilà ce que je voulais vous inviter à considérer ce matin.